L'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des Tiers-Mondes et de la solidarité internationale.
Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui je suis en compagnie de Serge Martin, d'Artisans du Monde. Et bien sûr, nous allons vous parler de toutes les activités qui se sont déroulées, malgré le Covid, dans la boutique d'Artisans du Monde, et pas seulement, mais dehors, avec tous vos partenaires.
Voilà.
Alors, c'est vrai que cette Covid a beaucoup gêné, notamment vos producteurs.
Alors, bonjour tout d'abord. Oui, effectivement, alors ça nous a gêné, nous, en tant que, je dirais, en tant que détaillants, bien entendu. Mais ça a aussi beaucoup gêné les producteurs, et notamment les producteurs artisanaux. Alors, nous, on travaille, il existe un commerce équitable nord et un commerce équitable sud. Nous, on travaille essentiellement avec le sud. Et donc, il y a eu tous les problèmes de transport, tous les problèmes de contingentement, tout ce qui a en fait ralenti un peu l'activité économique et surtout les échanges mondiaux. Mais ça a surtout frappé l'artisan. L'alimentaire, bien sûr, ils ont pu avoir des difficultés. Mais bon, paradoxalement, si on regarde sur le territoire national, on constate que la vente alimentaire de produits bio et équitables, y compris ceux d'artisans du monde, ont été beaucoup plus vendus. Ils ont été beaucoup plus vendus que l'année précédente, tout simplement parce qu'il y a une grande diffusion dans les magasins détaillants bio. Par contre, l'artisanat, notre association au niveau national, représente quasiment 90% de l'artisanat équitable. Et cet artisanat, ne serait-ce que parce qu'il a été frappé par la fermeture des boutiques et parfois par l'interdiction de vente, cet artisanat s'est beaucoup moins vendu et il s'est aussi beaucoup moins fabriqué. Parce que les difficultés sanitaires font que souvent les producteurs, bon, on va prendre le cas de Tara Project en Inde, souvent les producteurs sont dans une grande ville, New Delhi, mais ils viennent de campagnes éloignées. Voilà. Et donc, dès qu'il y a un problème sanitaire, la situation sociale n'étant pas évidemment la même en Inde qu'en France, ils ont tendance, ce qui est bien naturel, à revenir dans le village. Et en même temps, les liens se coupent aussi avec les matières premières, ce qui fait qu'elles ont de très très grosses difficultés à continuer à produire, sans compter évidemment les stigmates de la maladie elle-même.
Oui, même vous parliez de Tara justement, c'était un manque total de moyens médicaux.
C'est ça.
Et donc un atelier de bijoux faisait office de structure d'accueil pour les malades.
Oui.
Pour les éloigner de chez eux quand ils étaient contagieux. Et pourtant, grâce au travail artisanal, il y avait un centre de santé et des soins de base qui étaient assurés.
Voilà, c'est ça. Il y a une sorte de... en gros, ce sont des centres supplétifs, quoi, dont effectivement, ces ateliers ont été, si on peut dire, transformés en infirmerie. Et ce qui est vrai pour Tara est vrai pour d'autres. Ça a été vrai aussi pour Awas Sari, ça a été vrai au Bangladesh pour Jute Work. Voilà, il y a eu toute cette difficulté à maintenir l'activité, ce qui fait que derrière, ce manque d'activité va générer, à un moment donné, pas dans l'immédiat, mais va générer un manque de liquidité, puisqu'en fait, on achète, nous, généralement, l'artisanat, on l'achète une fois par an. Il y a un voyage par an, comme pour venir d'Inde ou pour venir d'Afrique, il y a un voyage par an, il n'y en a pas 10. Donc, ce qu'on vend aujourd'hui, c'est ce qu'on a déjà acheté. La difficulté va être qu'eux ont moins produit, et nous, on a des stocks. Donc la question, c'est de savoir ce qu'on va acheter aujourd'hui. Par exemple, c'est pas la peine de se précipiter dans une boutique artisan du monde. On peut le faire si on veut, il n'y a pas de problème. Pour te dire, tiens, je vais acheter, ça va aider le producteur. Ça l'aidera, mais dans 6 mois. Puisque de toute manière, le produit...
Oui, il y a toujours le délai.
Voilà, puisque le produit, on l'a acheté. C'est pour ça qu'on a fait... Alors ça devait être... Oh là là, je ne sais plus, là, au mois de février de cette année, on a fait ce qu'on appelle un crowdfunding avec Oxfam Magasin du Monde Belgique, afin de soutenir les producteurs, notamment d'Inde, mais il y en avait aussi d'Amérique du Sud et d'Afrique. Puisqu'avec Oxfam Magasin du Monde, on avait un certain nombre de producteurs en commun. On a donc fait cet appel qui a réuni, je crois, 37 000 euros qui a été envoyé, donc sans compensation à ces organisations de producteurs. C'est-à-dire que là, on a dérogé à notre principe qui est du commerce pas de l'aide, mais bon, quand il y a une grande difficulté comme ça, exceptionnelle, oui, on peut faire de
c'est
l'aide,
ça.
Parce que, comme on dit, c'est pas de l'aide à fond perdu.
C'est exceptionnel.
Voilà, c'est tout à fait exceptionnel. On aurait pu, on y avait pensé à un moment donné, au niveau national, faire peut-être des commandes supplémentaires, mais des commandes supplémentaires, encore faut-il produire, encore faut-il les assurer, encore faut-il trouver les liquidités. Bon, c'était un peu compliqué. Et on a opté pour ce système-là, qui, il faut bien le dire, avait été lancé principalement par Oxfam Belgique, et auquel nous nous sommes rattachés parce que nous travaillons tous les deux bon, à peu près dans les mêmes conditions et dans la même Union européenne de commerce équitable.
Oui, alors même pour les boutiques artisans du monde ont été gênées comme toutes les boutiques oui. de commerce.
Oui. Alors, on a surtout été gênés lors du premier confinement, parce que le premier confinement, bon, il nous a autant surpris que les autres, et on n'avait pas une boule de cristal, comment dire, les conditions sanitaires pour assurer la sécurité et des clients et des bénévoles vendeurs, on ne l'avait pas inventé, on ne savait pas le faire. Donc, l'année dernière, au mois de mars-avril, on peut dire que quasiment 5% des boutiques sont restées fermées.
Mais voilà, et voilà. Ça a été là, quand même une grosse perte.
Ah ben, le chiffre d'affaires a été de zéro. Et enfin, peut-être pas de zéro parce qu'on a fait un peu de click and collect, mais enfin, bon, c'était plus symbolique. C'est plus, voilà. Ce qui nous a gênés, nous, mais il faut bien dire que de ce point de vue, les aides gouvernementales aux entreprises desquelles on a pu bénéficier, bon, ont quand même amorti le choc. Donc, ce n'est pas forcément nous, entre guillemets, qui sont le plus à plaindre. Mais par contre, effectivement, quand je parlais tout à l'heure de l'artisanat, on a moins vendu d'artisanat. Donc, on a moins acheté et peut-être on en achètera moins. Voilà. Donc, on va faire un effort sur l'achat. Mais il y a surtout eu cette difficulté au niveau des producteurs artisanaux. Sachant que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les producteurs alimentaires ont surtout eu des problèmes, eux, de transport et de logistique.
Ici.
Voilà. Puisque, donc, alors, il y a eu les mesures sanitaires qui ont interdit certains ports, créé des quarantaines, etc., etc. Mais il y a aussi un fait qui est peut-être moins connu, c'est que les cargos, quand ils se déplacent, ils vont d'un point A à un point B, mais ils ne reviennent du point B que s'ils sont pleins. Or, là, ils n'étaient pas forcément pleins. Donc, du coup, il y avait moins de cargos, donc moins de transport. Donc,
oui,
voilà, ça les a quand même...
Tout tournait au ralenti.
Voilà, ça les a quand même handicapés. Mais globalement, l'alimentaire, en gros, pas tous, a mieux résisté.
Alors, vous avez quand même pu faire votre quinzaine du commerce équitable du 8 au 23 mai cette année, avec un thème « Notre assiette peut-elle changer le monde ?»
Oui.
Et alors, pour prouver cela, vous avez produit deux petites vidéos. Le premier, c'est « Monde d'avant, comment en est-on arrivé là ?» Et le deuxième, « Jour d'après, une planète équitable ».
Voilà, oui, alors on a essayé de faire quelque chose. Enfin, c'est les responsables de communication de notre association qui ont essayé de faire quelque chose d'assez attrayant pour les jeunes, d'un peu vivant, d'un peu farfelu, des fois, peut-être. Donc, alors, pour le monde d'avant, oui, c'est facile, la dénonciation est facile, c'est clair. C'est, le monde d'après est beaucoup plus compliqué. Voilà, bon, mais il faut le travailler. Pour nous, le monde d'après, le commerce équitable en fait partie. Mais le commerce équitable, c'est pas la solution. Comme on dit, le commerce équitable, c'est un chemin. Voilà, mais il n'offre pas la solution. C'est pas quelque chose, voilà.
C'est certain. Alors, il y avait dans la première vidéo une recette pour avoir une bonne pandémie.
Oui, voilà, vous voyez, voilà, il y a plein de choses, il y a plein de choses comme ça. Ça, c'est l'imagination de Myriam, notre responsable communication au niveau national, qui fait beaucoup de choses d'ailleurs en dehors de ça pour l'association, notamment des animations qui veulent rajeunir un peu, donner un peu de dynamisme à notre association.
Alors, c'est toujours faisable de regarder ces petites vidéos.
C'est toujours faisable d'ailleurs. De les regarder, voilà. Oui. On peut les regarder sur le site internet d'Artisans du Monde. Oui. Il suffit dans n'importe quel moteur de recherche de taper Artisans du Monde et vous avez tout de suite le site de la fédération.
Alors, Serge, vous avez apporté de la musique. De quoi s'agit-il ?
Alors, c'est Maldito Vecinda y los Hijos del Quinto Pasio. C'est un groupe mexicain et la chanson, c'est Solín.
Je suis avec Serge Martin, d'Artisans du Monde. Donc, nous venons d'écouter une musique apportée par vous, Serge. Et une autre activité qu'a menée Artisans du Monde, c'est avec les scolaires.
Oui, mais avant de parler de ça, il y a une chose qui vient de me traverser l'esprit. C'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure dans des vidéos qui étaient sur le site d'Artisans du Monde National. Oui. Mais l'année dernière, Jean Briac, notre service civique, avait aussi fait des interviews à distance avec un producteur du Mexique et un producteur de quinoa de Bolivie, Freddy Huarachi. Et voilà, ces vidéos sont toujours visibles sur notre site Facebook, mais il faut aller les chercher. Mais voilà, mais enfin, elles ont existé surtout. C'était son idée, mais il faut bien le dire. Il parlait parfaitement l'espagnol, donc il n'y avait pas de problème. C'était justement d'échanger avec des producteurs afin qu'ils nous parlent de la manière dont ils avaient vécu le Covid et ce qui était aujourd'hui leurs souhaits et leurs difficultés. Voilà, ça avait été intéressant. Il y a eu de très nombreuses vues. Voilà, c'était une excellente initiative. Je tiens à la saluer là.
Oui, elle complète bien celle dont nous avons parlé. Ouais. Alors oui, pour le domaine scolaire, vous continuez toujours vos activités pour présenter le commerce équitable dans les classes.
Voilà. Alors oui, effectivement, Artisans du Monde, c'est la vente de produits en boutique, sur le marché, etc. Ça, c'est une activité. La seconde, c'est ce qu'on appelle l'éducation, des animations dans les lycées, collèges, maisons pour tous, éventuellement université. Et le troisième, c'est le plaidoyer. Bon, c'est la défense d'un commerce plus juste au niveau mondial. Nous, on a à Montpellier une activité assez intéressante qui concerne l'éducation. Et alors, évidemment, pendant le Covid, alors mars-avril de l'année dernière et jusqu'en gros au mois de septembre,
oui, rien n'a pu se dérouler.
Il ne se passait rien, soyons très clairs. Mais là, en 2021, ça a quand même pu redémarrer. Alors, on a essayé, avec des succès plus ou moins évidents, de faire des animations du style webinaire, donc en visioconférence. Étant donné le public auquel on s'adresse, c'est pas toujours très facile. Bon, ça marche très très bien à un niveau national. À un niveau local, c'est un peu plus difficile. Mais malgré tout, Jana, qui s'occupe dans notre association de l'éducation, a pu faire un certain nombre d'animations. Alors, je me rappelle de mémoire qu'il y en a eu dans le collège de Bayargues. Elle a fait, si je me souviens bien l'année dernière aussi, des interventions sur la campagne alimentaire. Et elle a surtout beaucoup travaillé avec le lycée Bonnotaire de Pézenas, avec lequel nous travaillons depuis des années, et qui est reconnu JAS, c'est-à-dire donc qui a une position particulière dans le commerce équitable et dans l'éducation.
C'est un lycée agricole.
C'est un lycée agricole tout à côté de Pézenas. Ce lycée agricole a organisé cette année un repas équitable dans lequel la totalité de ce qui pouvait être équitable était équitable, y compris donc les produits du Nord. Donc il y avait des produits qui pouvaient être d'artisans du monde ou d'ailleurs et qui étaient du produit venant des pays développés, mais ils ont aussi acheté des produits équitables du Nord, notamment des légumes frais d'une entreprise Univer qui est, si je ne m'abuse, à Beauvoisin, dans le Gard, et qui fait du commerce à la fois bio et équitable. Voilà. Donc il y a cette problématique aussi du commerce équitable Nord qu'on est en train de défricher. Enfin, quand je dis « on », c'est les acteurs du commerce équitable, c'est pas forcément que artisans du monde. Voilà, et qui se développe petit à petit, qui fonctionne exactement, pas avec les mêmes publics, mais sur les mêmes principes que le commerce équitable Sud. Alors, ce qu'on a fait aussi dans le domaine de l'éducation, c'est une intervention avec une association qui s'appelle NIFTI, une association pour l'aide à l'insertion. Nous avons travaillé essentiellement en visioconférence, parce qu'on avait commencé en physique, mais bon, la crise est passée par là. Essentiellement en visioconférence, on a commencé donc à travailler sur l'économie sociale et solidaire et le commerce équitable. C'est donc présenté aux élèves de l'école de la deuxième chance de Nîmes, attendez que je ne dise pas de bêtises, Montpellier et Narbonne. Voilà, donc c'est la première partie concerne l'entrepreneuriat en général et la seconde partie concerne l'entrepreneuriat social. Donc c'est une expérience qu'on a faite, peut-être la continuera-t-on, peut-être sous d'autres formes aussi, voilà.
Ah oui, en effet. Alors vous avez aussi participé à la campagne alimentaire qui l'année dernière n'avait pas pu non plus se dérouler et qui a été reprise cette année sur le thème « Merveilleuses légumineuses ».
Ouais.
Et là, ça s'adresse aux scolaires de la ville de Montpellier primaire.
Oui.
Donc, 6 classes ont participé et il y a eu également une formation des animateurs, une distribution pour les animateurs d'un dossier pédagogique et les associations qui ont travaillé à cela, donc Artisans du Monde, la FIBALA et le Centre Documentation Tiers Monde, ont aussi organisé un repas qui s'est déroulé avec un repas spécial, justement, avec pour objectif de faire manger des légumineuses.
Oui, voilà. Et il en a été tiré aussi, une petite vidéo. Par contre, où peut-on la voir? Certainement sur le site de la fédération, qui reprend un certain nombre de commentaires des jeunes par rapport aux légumineuses. Qu'est-ce qu'ils en ont retenu et qu'est-ce qu'ils en ont compris? Parce que c'était un public très très jeune, très très jeune.
Très très jeune. Oui.
Donc voilà, la problématique du commerce équitable pour eux en primaire, c'est un peu compliqué quand même. La problématique des légumineuses n'était déjà pas simple d'après ce qu'on m'a expliqué.
Alors là, chacun est reparti avec un petit livret de recettes d'ici,
voilà,
et d'ailleurs.
Oui.
Et bien sûr, ils n'ont pu bénéficier cette année d'une fête comme c'est d'habitude, mais ils ont eu cette petite récompense de participation. Et donc, le repas a aussi été communiqué à toutes les familles, ce qui représente plus de 10 000 familles qui reçoivent avec explication pourquoi un repas spécial.
Voilà, chaque année d'ailleurs, on participe donc à cette campagne alimentaire, et je veux dire très régulièrement avec la Fibala, et on le prépare ensemble, tout au long de l'année. L'année dernière, si je me souviens bien, ou l'année d'avant plutôt, ça devait être le miel.
C'est ça. Oui, chaque année, on prend un produit, un thème différent.
Et là, puisque dans le commerce équitable, on est dans la sensibilisation alimentaire, mais la sensibilisation alimentaire fait aussi partie du commerce équitable, puisque donc, les aliments sains et les aliments sains d'un point de vue social aussi.
Voilà. Donc, au mois de septembre, il y a la rentrée, certainement, vous allez recommencer le travail pour une nouvelle campagne alimentaire.
Oui, voilà, il faudrait inviter Jana qui vous en dira beaucoup plus que moi là-dessus.
Voilà. Alors, écoutons la musique que vous avez apportée, Serge.
Alors, c'est Placebo et Too Many Friends, beaucoup plus classique.
My computer thinks I'm gay. I threw that piece of junk away. On the Champs-Élysées, as I was walking home, this is my last communique down the superhighway. All that I have left to say in a single tome, I got too many friends, too many people that I'll never.
Alors Serge, artisan du monde, a bien sûr des projets pour la rentrée.
Oui, on a quelques projets. Alors d'abord, il y a un projet qui nous tient beaucoup à cœur, c'est d'analyser les deux dernières années à venir, mais aussi d'analyser l'évolution de la boutique et de réfléchir à comment fidéliser mieux nos bénévoles et comment peut-être mieux les intéresser au commerce équitable et plus les intégrer dans notre fonctionnement, peut-être sous des formes diverses, qui ne concerneront pas forcément la vente, mais qui peuvent concerner la communication, qui peuvent concerner l'éducation, qui peuvent concerner le plaidoyer, qui peuvent concerner tout simplement l'échange sur le commerce équitable, sur le commerce solidaire, sur le commerce mondial ou local. Voilà, nous réfléchissons à ça. Nous allons faire, le mot est grand, mais on fait un petit groupe de travail en interne à l'Artisan du Monde de Montpellier. Et cette réflexion est aussi portée, bien entendu, au niveau national. Afin de redonner un coup de boost à l'association.
Combien de bénévoles avez-vous habituellement ?
Là, on est en liste, on a 52 bénévoles. Avec la crise sanitaire, ils sont tous là, mais on en voit moins. Voilà, il y a certaines personnes qui ne viennent plus ou qui ont pris un peu de distance, ou comme me disait récemment une bénévole, oui, on n'est pas venu et du coup on a fait autre chose, on est dans un autre monde associatif, c'est entendable, c'est compréhensible. Voilà, donc maintenant, ce qu'on voudrait, c'est mieux organiser nos bénévoles, plus les fidéliser. Peut-être recréer plus de liens. C'est pas qu'il y en a pas de liens dans notre association, mais peut-être créer plus de liens et de convivialité encore que ce qu'il y a pour travailler plus efficacement pour le commerce équitable.
Alors, au point de vue des projets, vous avez aussi à participer au sommet Afrique-France Off, qui va se dérouler.
Oui, alors il y aura normalement il y aura des palabres qui se tiendront à la Maison des Tiers-Mondes. Sur la première ou deuxième, enfin, première quinzaine d'octobre, je n'ai plus exactement les dates en tête. Et nous, on voudrait proposer deux palabres. L'une sur Ferrafric. Ferrafric, c'est une entreprise ghanéenne de transformation du cacao. Donc, c'est une entreprise qui est dirigée par des Ghanéens, enfin, le fondateur est allemand. Mais l'encadrement, la structure sommitale et les salariés sont Ghanéens. Ils travaillent avec des producteurs et des coopératives qui ne sont pas d'ailleurs forcément du commerce équitable, mais qui peuvent être du commerce équitable. Et l'originalité, c'est donc la transformation du cacao de A à Z jusqu'à la plaquette de chocolat emballée se
en
fait
Afrique.
En Afrique.
Ah, oui.
Ce qui veut dire que, en plus du prix qu'on appelle juste, ou du salaire vital, du revenu vital du commerce équitable, il y a une part plus importante de la valeur ajoutée qui sera distribuée aux producteurs locaux. Sachant déjà que le Ghana a, comme la Côte d'Ivoire d'ailleurs, un système de soutien des prix qui, dans le monde du cacao, est assez original, puisqu'ils imposent une surprime, si je me souviens bien, de $400 par tonne. Voilà. Donc, c'est surtout donc, la transformation dans le pays d'origine. Souvent, on nous fait le reproche, oui, mais c'est transformé en Suisse, oui, mais c'est transformé en France. Voilà. Là, c'est transformé au Ghana. Ça ne veut pas dire que c'est parfait. Il y a d'autres choses qu'il va falloir regarder, par exemple, quel est le bilan carbone aussi. Hein, puisque si vous faites une plaquette de chocolat complètement, quand vous la mettez dans le cargo, il faut que le soit réfrigéré. Vous ne pouvez pas les laisser à température ambiante. Donc, voilà, il y a les circuits, il faut bien qu'on vérifie tout ça. Mais en tout cas, l'expérience est extrêmement originale. Alors, c'est pas la seule usine. Hein. C'est pas la seule usine de transformation qui existe en au Ghana. Il y en a plusieurs, mais enfin, ça fait partie de ces expériences originales. Sachant que la vente ne se fera pas sous le nom d'Artisans du Monde, mais sous le nom de Ferrafric, parce que tout simplement, ils ont leur propre marque et qu'il n'y a pas de raison qu'on impose la nôtre. Et la deuxième palabre sur laquelle on voudrait échanger, c'est une organisation africaine du sud du Burkina et du nord de la Côte d'Ivoire qui fabrique du bissap et du karité et qui est en lien avec une organisation française qui est à Paris, qui s'appelle Foot de Rue. Et l'association Foot de Rue soutient les femmes, que ce soit françaises, étrangères, qu'importe, qui ont des difficultés, femmes battues, femmes qui se retrouvent dans la rue, femmes qui ont des difficultés, etc. etc. Et ils animent donc au Burkina et en Côte d'Ivoire une coopérative de femmes aussi. Ils importent, alors là pour de bon c'est pas ce qu'on appelle du commerce équitable, c'est nous ce qu'on appelle du commerce solidaire, mais c'est tout à fait équitable. Ils importent ce bissap et ce karité en France et nous on leur achète sous la marque la panaméenne et on leur achète les achète à cette association qui s'appelle Foot de Rue quoi. Voilà, donc c'est une expérience intéressante qu'on ne fera que si je peux avoir une personne de Paris qui assure le lien entre cette coopérative et eux, parce que c'est elle, Marielle, qui saura le mieux en parler. Je sais qu'elle est souvent disponible, mais nous ne l'avons pas encore contactée.
Voilà,
donc j'espère qu'on pourra le faire.
Parce que, rapidement.
Ben voilà, c'est quand même elle qui a la compétence, et moi j'en parle, mais bon, voilà.
Voilà. Alors, donc, beaucoup de projets pour la rentrée. Vous faites un appel à des bénévoles.
Voilà.
Pendant l'été, la boutique sera-t-elle ouverte?
Alors, la boutique sera ouverte en été jusqu'à la deuxième semaine d'août, où on assurera pendant 15 jours une ouverture réduite de 16h à 19h. Et on reprend ensuite, à partir de la dernière semaine d'août, et ainsi de suite, je ne dirais pas jusqu'à la fin des temps, mais au moins jusqu'à la fin de l'année et des années à venir.
Rappelez voilà. L'adresse de la boutique.
C'est 6 rue Saint-Firmin, à Montpellier, pas loin de l'Arc de Triomphe, adjacent à l'avenue Foch.
Eh bien, merci beaucoup, Serge, pour toutes ces nouvelles. Alors, je termine en rappelant une nouvelle qui a été lancée par Alternatiba, qui organise le camp climat Languedoc 2021 du 26 au 29 août au Vigan. Alors, si vous êtes intéressé, il faut prendre contact avec Christian Faure, Rouf, Rouf, @gmail.com. À bientôt, chers auditeurs, c'est-à-dire bientôt pour la rentrée maintenant.
Au revoir.
Bon été à tout le monde.